règne.
Puisque la beauté est dans les mains de ceux qui la préservent.
Bonsoir à tous, c'est Il Disegno, la revue audio de la beauté de par le monde, un jeudi sur deux de 19h à 20h, ce soir. Le livre, ce livre qui nous aide à voir plus large, à réfléchir sur ce que nous n'avons jamais vu de nos propres yeux, à écouter de tout près la voix silencieuse d'un inconnu ou d'une inconnue qui a déposé sa pensée dans ses pages, le considérons-nous pour lui-même, cet assemblage de pages qui a été réuni, imprimé, colorisé, qui garde l'odeur d'un certain papier, à qui on a donné une forme, celle qui est dans nos mains. Il nous aide parfois à nous évader de la réalité trop pesante ou trop douloureuse, il nous aide à respirer par l'esprit, nous fait-il aussi revenir au concret, à la sensibilité de la matière. Oui, un livre, c'est du papier, une reliure, un fil cousu ou de la colle, et souvent il disparaît en fait derrière son contenu, à tel point que beaucoup de livres ne sont que des formats standardisés avec plus ou moins de pages, une typographie plus ou moins grosse et grasse, une illustration de couverture plus ou moins inspirée. Est-ce que les livres sont beaux? Je ne pose pas tout de suite la question du contenu, mais en tant qu'objet. Le livre que vous emportez dans votre sac ou que vous gardez à proximité de votre oreiller, s'il n'y avait un attachement à son contenu, le trouveriez-vous beau en tant que tel? On parle tout de même de beaux livres. Ce sont ceux qu'on offre aux fêtes, ils sont plus volumineux, le papier est plus épais, souvent glacé, les illustrations sont plus grandes, de définition plus soignées. À la vérité, même si ces livres peuvent avoir quelque chose de précieux, ils ne s'éloignent que rarement des formats standards et de l'idée qu'on se fait par habitude de l'aspect et de la fonction du livre. Dans cette émission, on ne pourra pas parler du livre sans parler de la beauté du travail de ceux qui façonnent le livre. Et pas non plus en oubliant que le livre est libre d'adapter sa forme au plus près de son contenu, car lui aussi peut bouger, changer pour aller à la rencontre de son sujet. La Voix sociale et édition conçoit le livre comme un objet à part entière, avec sa vie entière, donc autant physique que spirituelle, ce qui veut dire que chaque projet est pensé dans le lien entre contenu et contenant. Aujourd'hui, c'est avec les auteurs, mais aussi les assistants d'édition, que nous allons nous entretenir. Je vous propose ce soir d'aller à la rencontre de 5 auteurs édités par La Voix sociale et édition, éditeur rennais. Alors, Pierre Katchouk, bonjour.
Bonjour.
Pierre Katchouk, toi tu as écrit le livre Le Bac et Après, Réveil étudiant, ça c'est le sous-titre. Alors quel regard tu portes à l'heure actuelle sur les conditions qui sont celles des jeunes, donc qu'ils soient des adolescents, lycéens, puisque c'est à eux en particulier que tu t'adresses dans le livre, mais aussi ceux qui sont post-bac, justement. Le livre s'appelle Le Bac et Après, donc disons un peu avant, un peu après le bac, ces générations-là. Voilà, quel regard?
Je pense que ça rejoint l'idée qu'il faille faire ses propres expériences, pas rester dans sa zone de confort, à juste faire ce qu'on est capable de faire et en ayant peur de faire des choses inédites, quoi.
Alors s'il y avait deux ou trois choses essentielles dont tu parles dans ce livre et que tu souhaiterais transmettre aux plus jeunes, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait?
Moi, je dirais que c'est d'essayer le plus possible de faire preuve de courage sans forcément écouter ce que peuvent dire l'entourage. Je crois qu'en fait, moi, dans la plupart, même quasiment toutes les décisions que j'ai prises, j'ai jamais trouvé quelqu'un de 100% d'accord avec tous mes choix. C'est toujours difficile de prendre des décisions et c'est toujours un peu seul qu'il faut les prendre. Je dis pas qu'il faille écouter personne, mais voilà, il y a un moment où les décisions se prennent seules et il faut faire preuve de courage pour les prendre, en fait. Et je pense que quand on fait preuve de courage, les choses sont beaucoup plus simples. Pour moi, voilà, l'adolescence, et les années où on est jeune, c'est vraiment les années où il faut faire ses expériences. Il faut absolument pas rester dans un carcan et rester dans ses petites habitudes, quoi.
Alors justement, est-ce que tu as eu besoin de courage pour aller au bout de l'écriture de ce livre?
Oui, c'était pas facile pour moi parce que je suis pas du tout un écrivain. En tout cas, je me considère pas du tout comme tel. J'ai eu beaucoup de fois où je me disais que je faisais un peu n'importe quoi et qu'il fallait que j'arrête, quoi.
Donc j'imagine que c'est un courage dont toi tu as eu besoin dans ton parcours pour réaliser certaines choses.
Voilà, c'est ça. Pour voyager, pour trouver du travail, pour savoir dire non, pour voilà, faire un métier qui m'intéresse aussi. Pour beaucoup de choses, en effet, je pense qu'il faut en faire preuve. Et plus tôt on commence, mieux c'est. Et j'invite aussi vraiment les gens à se tromper, surtout quand on est au lycée, à aller faire des erreurs, à aller faire ses propres expériences. Et voilà, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on apprend, en se trompant, quoi.
Est-ce que tu connais un peu les conditions des auteurs aujourd'hui dans la société?
Qu'il n'y a quasiment personne qui vit de l'écriture aujourd'hui.
Comment tu en es venu à écrire ce livre ?
Alors, c'est lors d'un voyage en Asie, en fait, que j'ai fait durant mes études supérieures. Je suis parti, voilà, une année en césure, faire du woofing et donner des cours d'anglais. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai fait une sorte d'introspection, je dirais, sur ma vie passée. Et que je me suis dit que, voilà, c'était dommage, en fait, de ne pas aider les lycéens ou... En fait, j'aurais bien aimé vouloir m'aider moi-même quand j'étais, voilà, au lycée, où c'était peut-être plus compliqué. J'imagine que j'étais pas la seule personne dans ce cas-là. Et donc, voilà, je voulais que ce que j'avais appris les années d'après puisse aider des personnes qui auraient pu être dans mon cas, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus facile d'écrire quand on voyage, quand on est dans un autre environnement, que quand on est dans son bain quotidien, quoi.
Alors, il y a le fait d'être trop protégé, trop couvé, on va dire, dans le cadre familial. Il y a aussi le fait qu'il existe assez peu de sas, en fait, de passage de la famille à la réalité sociale, et notamment le marché du travail, etc., qui est quand même assez flippant, en fait, hein, quand on sort justement de ses études et qu'on se retrouve face à ça. Ça peut être assez flippant, surtout que la pression s'exerce tout de suite assez violemment, c'est-à-dire quand on est à l'école, il y a la pression des résultats à l'école, mais une fois qu'on sort de l'école, alors là, la pression, quasiment, elle est multipliée par 10, parce qu'il faut qu'on se dépêche de ne pas être chômeur.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Voilà, moi, je pense en effet que, à force de vouloir trop protéger les enfants et les adolescents, en effet, le jour où on est confronté à des choses plus compliquées, où on est seul, en effet, face aux problèmes, c'est beaucoup plus dur de les surmonter, en fait. Et donc en effet, moi, je pense aussi que j'étais peut-être trop protégé. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. En effet, on nous met dans des cocons, et quand il faut, quand on n'est plus dans ces cocons-là, c'est beaucoup plus dur de se défendre, entre guillemets, et de faire ses propres armes. Je pense que c'est toute la société, moi, qui est un peu trop comme ça. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui restent dans des cocons un peu toute leur vie, quoi. Si.
Alors, tu as parlé des bullshit jobs.
Alors, les bullshit jobs, c'est ces travails, en fait, qui n'ont aucun sens pour la personne qui le fait, en fait. Donc, une perte énorme d'intérêt pour le métier. Et donc, voilà, c'est des gens qui, une fois qu'ils sont dans ces métiers-là, ne souhaitent qu'une chose, c'est le quitter. Et donc, reviennent vers des métiers qui ont du sens, quoi, du plus concret, en fait. Moi, je pense pas, en effet, que l'école nous... pousse à nous émanciper, en fait. Je crois vraiment qu'aujourd'hui on essaye, voilà, de faire entrer les gens, enfin qu'on essaye, je veux dire, l'école est faite un peu pour ça, faire entrer des gens dans un moule et ne pas en sortir, en fait. Moi, j'avais lu quelque chose qui m'a beaucoup fait penser à ça, c'est Nietzsche qui en parle. Il parle, en fait, d'un premier stade dans l'esprit humain qui serait le stade du chameau, qui voilà, porte sa charge, et qui dans sa vie porte sa charge et ne fait que ça, en fait, et pense à la charge qu'il porte. Donc ça peut être les devoirs, en effet, toutes les règles que la société lui impose, qu'elles soient explicites ou implicites, enfin, il porte sa charge, quoi. Et on peut vivre toute une vie en portant sa charge, après en ayant des enfants, une femme, et toujours en étant conformé dans ces moules-là, quoi. Il peut y avoir ensuite la rébellion. Voilà, si Nietzsche parle de la révolte du lion, révolte qui se fait, mais qui est terrible parce que pendant que vous êtes révolté, en fait, vous êtes seul dans votre révolte. Et donc c'est un état qui est pas forcément très long, enfin qui est plus ou moins long, et qui vous permet d'arriver à une troisième étape, toujours selon Nietzsche, qui est le retour à l'enfance, en fait, qui vous permet de voir la vie vraiment différemment et de commencer à jouer avec toutes ces règles-là. Et là, vous subissez beaucoup moins la pression et vous êtes vraiment beaucoup plus dans une grande émancipation, quoi.
On terminera sur ce retour à l'enfance. Merci Pierre Katchouk, auteur de Le Bac et Après, Réveil étudiant. Merci.
Patrice débarque comme un chien mouillé dans un jeu de quilles. Encombré de lui-même, le casque de mobylette sur les genoux. Il sent la graisse de moteur. Il a les doigts tachés de noir. Je rêve un peu et je crois voir de l'encre de Chine imprimée sur sa peau calleuse. Il revendique le droit de ne pas être content, le droit d'ouvrir sa gueule, le droit de dire la vérité, la sienne. Il revendique mon attention. Il revendique la parole, celle qu'on lui a confisquée un jour à la récré. Patrice se bat depuis trop longtemps. Seul dans la tempête, seul dans sa tête, seul sur les routes de plus fines. Il me regarde du fond de son trou, noir de cambouis. Il me supplie, sans un mot, de faire l'égalité, celle des hommes, de faire venir le travail, de faire entendre la douleur d'être une ombre sous le couvercle du ciel, de faire entendre la solitude des gens comme lui, des gens sans instruction, sans belle formule, de faire entendre la fierté de rester debout dans la nuit qu'est sa vie. Quand j'entends cette douleur, celle d'un frère, la mienne peut-être, je capture le mal à l'œuvre, cette torsion des choses, cette disparité du bonheur, cette disparition de la circulation sous la pluie froide, du sentiment de solidarité. Il voudrait lui aussi sa place au soleil, prendre des avions et descendre dans des palaces, loin de Maurepa, oublier la crasse, perdre la trace des évidences.
Vous avez pu entendre un extrait audio du livre « Les Limeurs de vie » publié justement ces jours-ci par La Voix Sociale et Édition. Kate Du, bonjour.
Bonjour.
Tu es l'auteur du livre « Les Limeurs de vie ». C'est un sacré morceau de vie justement ce livre. Peux-tu nous raconter comment ça a commencé ?
Alors, donc, moi j'écris beaucoup dans mes entretiens d'accompagnement de demandeurs d'emploi. Et j'écris beaucoup dans les dossiers, voilà. C'est-à-dire que j'ai un ordinateur, bien sûr, mais l'essentiel de ce que je fais n'est pas du tout dans l'ordinateur, il est vraiment dans le contact, il est dans le relationnel. Ce livre, avant d'être un livre, c'est effectivement d'abord une expérience réelle, vécue, on va dire, une expérience existentielle, dans le cadre d'une mission au CCAS de Maurepa, et en tant que salarié de Pôle emploi. Je vais faire les choses d'une façon un petit peu particulière, et il y a beaucoup de personnes avec qui il y a un contact particulièrement vivant, on va dire. Et dans les échanges que nous avons, en fait, on parle de beaucoup de choses. On est très très loin de l'emploi parfois, ce qui n'empêche pas que c'est vers là qu'on ira quand même. C'est notre direction principale. Dans le cadre de la mission, c'est comme si le matériau qui va être traité, on peut le dire comme ça, c'est ce que la personne amène. Ça n'est pas ce que moi j'ai à proposer. On ira vers ce que j'ai à proposer, peut-être, mais peut-être au bout de 2 ans. Le temps n'est pas le même. Le temps n'est absolument pas le même. Et ça, c'est vrai que c'est très particulier. Moi, je sais que j'aime ça. J'aime cette façon-là d'être dans la temporalité de l'autre. Et je pense que c'est ça qui fait que ça a été 4 ans relativement passionnant de mon côté, mais je pense aussi de la part de ceux qui sont venus dans le bureau. Et parfois, les gens vont amener des choses peut-être insignifiante, hein, et qui ne serait pas dite dans un autre bureau, dans un cadre hors celui-là. Mais là, tout est permis, finalement, quelque part. Et je pense que cette audace, de ma part, mais aussi, du coup, je la propose à l'autre, l'autre la prend, la plupart du temps, permet de vivre vraiment de façon intense, mais aussi d'être dans une forme d'authenticité, quand même, relativement... c'est assez énorme, quoi. On reste dans un cadre, on a un bureau entre nous, bien sûr, mais il se passe vraiment autre chose que au Pôle emploi. Donc, à la base, voilà, on est. Enfin, moi, je suis d'abord dans ce contact avant d'être dans l'écriture.
Comment est-ce qu'on passe de ce contact vivant à l'écriture ?
Eh bien, parce qu'il va y avoir une fin de mission, même si je le pressens et qu'on nous l'annonce en octobre, voilà, on sait qu'il n'y aura pas de renouvellement de cette mission. Moi, j'ai vraiment, enfin voilà, après ça, c'est ma façon de vivre les choses, mais j'ai des temps, j'appelle ça des temps d'incubation, c'est-à-dire qu'entre le savoir intellectuel et ce qui est vécu, justement, le geste d'écriture pour moi est ce qui me permet de faire ce sas entre les deux. Donc ça s'impose, donc toute cette fin de mission, ça s'impose comme ça, et en fait, je continue après, pour pouvoir, quelque part, créer par moi-même quelque chose d'autre, en fait. Ne pas être complètement anéanti, puisque, effectivement, le retour dans les murs du Pôle emploi, je le vis vraiment en grande souffrance.
Alors avec les Limeurs de vie, on se retrouve face à un texte tambour battant, très rythmique, avec une poésie sensorielle à fleur de peau, quoi. On est pris à partie par ce texte. En fait, le texte va finalement suivre un certain nombre de personnes, donc c'est un choix que tu as fait, un certain nombre des personnes que tu as suivies dans le cadre de cette mission, qui deviennent des personnages du texte.
Oui, tout à fait. Je pense que dans les personnages, il y a donc une inspiration évidemment de la réalité et des rencontres qui ont été vécues, voilà, mais je pense que par rapport à des prototypes peut-être ou des archétypes de personnages, il y a dans certains personnages un peu toutes les autres femmes, par exemple, ou une certaine typologie de femmes. Par exemple, il y a Marguerite. Marguerite, elle va trouver un mari et non pas un emploi en venant avec moi. Alors moi, j'ai pas de mari dans les tiroirs, hein. Mais dans la façon dont je l'accompagne et dans ce qu'elle m'amène, finalement, c'est vers là que ça ira. Il y a donc une condensation dans les personnages que j'ai choisis, soit de traits de caractère, de certaines caractéristiques de demandeurs d'emploi aussi, mais plutôt, enfin, je pense que moi, dans ce bureau, on oublie presque qu'on... Enfin, ce titre-là n'existe pas vraiment, on est avant tout des êtres humains.
Comment ça s'est passé pour toi entre le geste d'écriture des Limeurs de vie et le moment où ça devient maintenant un livre ?
Alors, il y a eu plusieurs versions d'écriture. Il y a eu vraiment, sur pratiquement, on va dire, 4-5 ans d'écriture. Enfin, bien sûr, je fais plein d'autres choses à côté, je travaille, entre autres. C'est à peu près 4-5 ans avant que cette version, qui est celle que nous avons aujourd'hui, effectivement, à l'écrit et donc aussi en audio, elle arrive vraiment en 2018, celle-ci. Enfin, on va dire fin 2017, début 2018. Et elle est définitive. Enfin, je sais que celle-ci, c'est la bonne. C'est vraiment cette façon-là, avec ce rythme très soutenu, cette cadence et peut-être cette urgence. Et justement, peut-être que ce rythme-là, il était aussi, parce que je le lisais effectivement chez moi, seul, pour l'entendre, et voir comment il était vivant autrement. Et cette forme orale s'est un peu aussi imposée dans un second temps. Et peut-être aussi comme une forme de retour, pas à l'expéditeur, mais de retour à l'origine de ce qu'est ce texte. Parce qu'avant d'être un texte, c'est quand même d'abord des paroles.
Texte, parole, le premier choix, un des premiers choix, disons, qui a été fait quand tu as commencé à collaborer avec La Voix Sociale et Éditions, en 2019, il me semble, ça a été de passer ce texte, un extrait en fait de ce texte, sur support audio.
Alors en effet, moi j'ai contacté La Voix Sociale parce que j'avais envie de travailler avec ma voix. Au départ, je n'ai pas fait le lien avec mon texte, c'est vrai. Je suis aussi dans une démarche de reconversion donc en art-thérapie et il me semblait que cet outil, la voix, qui fait quand même partie pour l'essentiel de mon travail, même en tant que conseillère en insertion, mais je voulais de l'aide pour en faire quelque chose d'esthétique. Et c'est vrai que c'est en échangeant avec les différentes personnes qui m'ont accompagnée donc, dans la voix sociale que j'ai peut-être pris conscience et que j'ai montré mon texte. Mais je n'en avais pas pris conscience, en fait, toute seule.
Et donc aujourd'hui, le livre est publié, va être publié là, sous peu, avec un CD audio qui comporte donc 15 minutes environ d'enregistrement de différents fragments du texte. Et puis en plus, le livre alors est un objet à part entière, parce qu'on a évidemment le texte qui est enrobé, illustré, soulevé par beaucoup d'images qui sont en fait des fragments, des détails ou des vues d'ensemble de tableaux, peintures en bonne partie, il y a un petit peu de photos aussi, qui ont été réalisées par toi, mais alors pas du tout dans l'idée d'illustrer ce texte au départ.
Non, en effet. Comme effectivement le temps a passé entre le début de l'expérience, on est en 2010, aujourd'hui nous sommes en 2020, moi j'ai fait un parcours. En ayant quitté donc, la mission un an plus tard, je me suis fracturé le col du fémur. Et cette fracture du col du fémur m'emmène vers l'écriture, bien entendu. Donc 2015 est un grand temps d'écriture. D'abord parce que je ne peux pas faire grand-chose d'autre, mais parce que c'est aussi l'occasion rêvée de le faire. Et à partir de là, non seulement j'écris, mais aussi je peins. Je me mets à vraiment faire les deux un peu en même temps. Donc c'est encore une fois une forme d'évidence pour moi. Les dessins et les peintures et photos, effectivement, viennent un petit peu éclairer et actualiser ce que moi je suis aussi aujourd'hui. Ça vient renforcer une vision qui complète un petit peu le parcours de vie, puisque ce sont aussi les limeurs de vie, des parcours de vie. Toutes les rencontres que j'ai pu faire avec les personnes, donc les personnes et les personnages après dans l'écriture, quelque part on pourrait presque imaginer que les peintures que j'ai pu créer sont des formes de fragments de cette rencontre. Il s'est passé quelque chose en moi et ça ressort là. En plus il y a la texture, il y a quelque chose également qui s'impose et qui est d'une forme d'évidence. Il y a du bleu par exemple, enfin il y a une aquarelle bleue pour Patrice, ça ne pouvait aller qu'à lui. C'est un des limeurs de vie, c'est le dernier portrait, et lui... C'est ce bleu-là qui lui allait. Il y a beaucoup d'autres couleurs, il y a beaucoup d'autres formes, mais lui, c'est vraiment ça que je ne pouvais pas lui attribuer autre chose. Et j'ai presque envie de dire, c'est même pas moi qui choisis finalement. C'est la peinture qui choisit.
Monotrains de Patrick Richardson. Je vous annonce ce soir la parution très prochaine du numéro 1 de la revue Il Disegno Papier. Avec ce premier numéro, il y aura un disque, car avec Il Disegno, on est entre l'audio et le papier. Un CD 3 titres de l'auteur, compositeur, interprète Patrick Richardson, qui vit à Rennes et qui a produit un album appelé La pluie d'été, dont sont extraites les chansons du CD qui figurent dans la revue. Je suis avec Cristal. Bonjour Cristal.
Bonjour.
Tu es l'auteur du livre Femme, F apostrophe, âme comme l'âme. Pourquoi ce titre ?
Honnêtement, j'ai beaucoup galéré, j'ai regardé les poèmes, je me suis dit, bon, l'esprit commun, c'est la femme, ce qu'elle ressent, etc. Ça ne m'est pas venu tout de suite. Et j'étais en train de me dire, ouais, la femme, elle est polyvalente, multicarte. Et puis j'étais en train de me perdre dans mes pensées, j'étais en train de penser à plein de choses. Et d'un seul coup, je ne sais pas, petite inspiration, j'ai vu le mot femme. et d'un seul coup le mot âme, et je me suis dit que ce serait bien de justement faire un jeu de mots, parce que je me voyais pas exprimer ça comme... En fait, j'ai trouvé des tas de titres, mais qui n'étaient pas cohérents, qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas... Voilà, qui voulaient exprimer vraiment, mais c'était pas encore ça. Donc, en fait, âme et femme, je me suis dit, c'est la même chose. Alors, ce livre, il a été fait à partir de poèmes, de mon vécu, sur mes rêves, sur mes inspirations, sur mes ressentis en tant que femme. Tout ce qui l'entoure, ce qu'elle ressent, ses projets, ses aspirations. Ce livre, c'est pour moi, ça fête les 5 ans de mon écriture.
Et donc, depuis plusieurs années, tu publies sur une page Facebook qui s'appelle...
Crystal Palace, le palais de la création, qui est une page où j'ai notamment publié toute ma poésie depuis juin 2015, ce qui fait pas mal de temps, ainsi que certains petits montages vidéo personnels, parce que je me suis essayé montage comme ça, je me suis dit ça pourrait être sympa pour illustrer certains poèmes.
Donc on voit que tu pars en fait d'un univers assez numérique, le support Facebook, le web. Qu'est-ce que ça fait depuis ce type-là d'environnement, de passer à un livre papier?
Eh ben, une sacrée bonne surprise. C'est vraiment un coup du hasard. Et il se trouve que j'ai rencontré La Voix Sociale. Comme ça, j'ai appris qu'il faisait toutes sortes de choses autour de l'écriture, etc. Et qu'il publiait. Donc, moi, intéressée, à l'époque, je commençais tout juste à écrire. Je me disais, ça pourrait être sympa, justement, d'avoir quelqu'un qui me conseillerait ou pouvoir améliorer mon écriture. Ou... Moi, je m'attendais même pas à faire un livre, à la base. Je me disais, oh là là. Mais non, c'est venu petit à petit, c'est venu naturellement. Et aujourd'hui, ce bébé sort et j'en suis très contente. Franchement, c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait dans la vie. Et d'ailleurs, rien n'aurait été possible sans La Voix Sociale, que je remercie infiniment, ainsi que Blocarty, qui est mon illustratrice, qui fait de magnifiques dessins, dont je suis très très fière.
T'as vu tes poèmes coupés ?
Alors en fait, ça m'a fait bizarre. J'avoue que de voir mes poèmes coupés, je fais « mais ils montent des choses, c'est parce que je vous... » Bon, après, je me suis dit « relis un peu pour voir ce que ça donne », et puis je me dis « ah oui, non, c'est vrai, c'est bien comme ça aussi ». C'est bien d'exprimer par ces petits vers qui... avait un petit talent une fois sorti, en fait, de mon poème. Parce que j'avais l'impression que mon poème, des fois, était très... Je sais pas, je me disperse peut-être un peu quand j'écris. Et je peux avoir des petits tics, que je suis une bille, des fois, en orthographe. Oui, j'écris et je suis une bille, oui. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Je peux faire des fautes. Et oui, ces petits extraits, une fois sortis de leur contexte, je trouve qu'ils sont drôlement plus puissants, plus inspirants.
Intenses, je dirais, les moments les plus intenses. Alors, il y a aussi des poèmes qui sont en entier, hein, mais pour certains, c'est un petit fragment qui a été pris là, une petite sensation, une petite coloration, parce que la couleur, c'est quand même quasiment le personnage principal du livre, quoi, après la femme, bien sûr. Alors, ce côté aussi fragmenté, ou en tout cas, des poèmes choisis plutôt sur des durées courtes, un rythme de lecture en fait tonique, c'était aussi une question de cohérence par rapport justement à l'univers graphique assez pop, quoique méditatif, qu'inspire le travail d'illustration de Blocarty.
Le but, c'est de rendre la poésie accessible. La poésie, c'est pas le Baudelaire qui fait 45 pages et qui est un peu pompeux. Non, la poésie, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Ça peut être quelque chose qui peut se lire très vite, comme ce qu'on appelle les haïkus, les fameux poèmes japonais. Bah, ça s'inspire un peu de ça pour certains extraits qui sont justement très courts, très percutants et qui permettent très vite de comprendre là où on va en venir. C'est vraiment, ça se mange comme ça, tout de suite, très vite. Il y a aussi des poèmes beaucoup plus long, mais ça... Non, franchement, je pense que je fais de la poésie qui peut se lire, que tout le monde peut lire. Je pense que c'est vraiment très accessible. J'ai jamais utilisé de langage vraiment très haut, très, très haut perché. Oui, ça m'est arrivé de mettre quelques vers par-ci par-là, parce que je trouvais que ça faisait bien. Mais sinon, non, j'ai une écriture relativement courante. Je veux dire, si quelqu'un a un problème avec un mot, je pense que ce sera juste un seul mot.
Il y a quelque chose avec la gourmandise dans ce livre. C'est un livre dans lequel la sensualité est assez présente. Gourmandise, sensualité, plaisir de ressentir, plaisir de goûter les choses. Alors évidemment, pas seulement avec l'organe du goût, goûter la vie, peut-être goûter le fait d'être une femme.
Oui, c'est vrai que je ne m'en suis pas rendu compte, mais il y a beaucoup dans cette sélection de poèmes, beaucoup de choses qui tournent autour de la sensualité, vraiment ce qu'une femme peut désirer, éprouver, dire.
Oui, je dirais ouais, qu'il y a quelque chose avec être entier, alors en l'occurrence être entière, et c'est pas seulement dans la matière, parce que la dimension de l'esprit... elle est importante aussi dans le livre. La présence de la pensée, en fait, du recul qui est pris sur ce qui est vécu, que ce soit les blessures ou les joies. Donc, comme pour tous les livres de La Voix Sociale Édition, on a ici, donc évidemment, un livre-objet hein, avec beaucoup de graphismes, beaucoup de couleurs, un ouvrage façonné à la main, d'un livre qui permet aussi de se remettre en phase avec des vieux savoir-faire et des choses qu'on peut faire nous-mêmes sans les machines, sans l'industrie.
Et je trouve ça très bien parce que justement, je trouve que des fois, les livres manquent d'âme à toujours vouloir se ressembler avec toujours la même couverture, toujours la même édition. Enfin, là, je suis quand même fière de savoir que le simple fait de faire un livre, ça a contribué déjà à nous rémunérer, nous, en tant qu'auteurs. Je suis contente que ça fasse vivre des gens. Le simple fait qu'il soit artisanal, je trouve ça génial parce que justement, il est collector, il est unique. Et vu qu'il est artisanal, ça donne ce cachet très, très personnel. Ça fera que ce petit objet, ce livre, pourra être approprié par n'importe quelle personne qui voudra en faire le sien.
Bonsoir, Blaucarty.
Bonsoir.
On vient d'entendre Crystal, l'auteur des textes du livre Femme. Blaucarty, tu es l'illustratrice de ce même livre. Certaines des illustrations qui sont dans le livre existaient déjà avant cette rencontre avec Crystal. Pour une part, ce sont justement deux univers déjà préexistants qui ont été amenés à se rencontrer. Et ensuite, il y a une partie du travail graphique qui a été fait spécifiquement en illustration de ce projet. À partir de cette énergie-là de départ, je dirais.
Crystal a une vision de la femme cachée, quelque part. Une femme un peu exubérante, mais qui cache une personnalité beaucoup plus profonde, comme si la femme était une petite pierre précieuse, quoi, quelque chose de tellement, tellement beau et à la fois tellement inaccessible. Et oui, c'est totalement l'idée du livre. Et à partir de là, moi qui adore travailler les couleurs, je me suis dit, allez, on va essayer de donner vraiment cette ambiance flashiste, cette ambiance groovy, finalement, un peu pop du livre, et faire parler la femme, en fait, à travers toutes ses facettes, comme une pierre précieuse.
Ensuite, il y a un autre dessin qui est venu, qui est important. C'est le dessin qui est devenu la couverture. Donc là, pour le coup, on est dans un dessin réalisé sur commande par rapport à un des textes.
Oui, en effet, c'est ça.
Alors là, on partait d'un poème donc, qui s'appelle Le coton, qui parle de la poésie reliée à la sensation du coton, mais aussi à la fleur de coton. Ça parle de s'allonger dans un champ de coton. Il y a le sensoriel dont on parlait aussi avec Crystal tout à l'heure. Le sensoriel, le spirituel, et en fait, la poésie qui émerge à partir de cette sensation brute et de cette vision sublimée du coton. Et donc là, tu as dessiné une femme à partir de ce poème, Le coton, qui est devenu la couverture.
Oui, en effet, ouais. Je me suis vraiment laissée aller pour ce dessin à la base, parce que tout le poème évoque la légèreté, toute la douceur qu'une femme peut faire ressentir et ressortir. J'ai pris mon stylet et je me suis dit, allez, imagine ce à quoi pourrait ressembler une femme douce, une femme mélangée à de la lumière, mélangée à la douceur de la nature, quelque chose qui t'inspire vraiment, une lumière, quelque chose de pur, qui attire l'œil directement. Et j'ai donc crayonné cette femme, qui finalement sur le dessin me paraît assez simple, mais sa silhouette en elle-même inspire énormément, une sorte de déité, quelque chose de beau, de doux. Et j'ai rajouté des couleurs dessus. Assez froide au début, un peu de bleu, bon, parce que j'adore le bleu. Et ça rappelait aussi le coton, le ciel aussi, il y avait comme un parallèle entre le ciel et la terre. Et ce petit rose finalement qui ressort dans les cheveux, qui amène un petit côté barbe à papa aussi, quelque chose vraiment de sucré. Une femme tout en élégance, belle, qui pourtant ne se prend pas de haut. Ce doigt, enfin cette main levée, vers elle, en face d'elle, qui semble ressortir du livre, qui amène le lecteur peut-être à venir voir ce qui se passe à l'intérieur. mais de manière bienveillante. Et je pense que c'est ce que Crystal voulait faire ressortir à travers son livre aussi.
Vous écoutez l'émission Il disait Agneau sur syllabe, on est dans les champs de coton. J'ai crayonné, disais-tu. Il y a un cheminement intéressant là, c'est que toi, tu pars toujours du crayon et du papier. Ensuite, tu passes au numérique pour la coloration. Et donc là, on a ce voyage-là, puis un retour vers le papier avec le livre. Alors comment cet aller-retour là, qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Ah, c'est assez émouvant quelque part. C'est assez émouvant parce que ça mélange deux de mes univers finalement. C'est vrai que je me sens beaucoup plus rassurée sur papier la plupart du temps, beaucoup plus libre de mon mouvement, même si j'aime beaucoup dessiner à la tablette, mais c'est pas la même sensation. Et sur papier, voilà, je peux m'évader, retranscrire autant d'idées que je veux jusqu'à ce que je trouve la bonne finalement. Une fois que j'ai réussi à trouver cette femme-là, essayer une autre méthode, apporter un peu de modernité finalement avec le numérique, ça fait un beau mélange entre le traditionnel et le moderne, j'aime bien. Et le voir retranscrire en livre, c'est la première fois pour moi que je vois en tout cas un de mes dessins sur papier, illustré dans un livre, c'est vraiment très très touchant. Parce qu'il y a un travail derrière, une réflexion et une part de moi aussi qui s'inscrit sur le papier. Quelque chose que je vois toujours finalement de loin, qui n'est pas vraiment palpable en fait avec mes versions numériques. C'est un beau sentiment que ça m'inspire. Franchement, très très heureuse. Je pense que toutes les deux, on est vachement touchées par cette collaboration finalement. Je pense qu'on a peut-être aussi cette approche compliquée vis-à-vis de notre statut. On a un peu de mal à y croire, je pense.
Et voici une nouvelle chanson issue du CD 3 titres qui va accompagner le numéro 1 de la revue Il disait Agneau, Patrick Richardson, avec le morceau Petite Mort. Un artiste qui sera d'ailleurs invité très bientôt dans cette émission.
Tout se fane, port à port, tout se fane, reste encore sans effort, yes.
La voix sociale et l'édition fait un travail assez particulier puisque La forme choisie doit être celle qui révèle le mieux le sujet, mais aussi l'auteur. Alors ça veut dire, si on se rend compte que la voix de l'auteur est nécessaire au livre, il y a un CD audio avec enregistrement de l'auteur qui va venir accompagner le livre. S'il y a une question de transparence, il y aura des pages transparentes, une couverture transparente. On a vu aussi un livre de peinture se revêtir d'une couverture en cuir ajourée qui ouvre sur la floraison d'un jardin multicolore. Le livre est pensé entièrement comme une matière transformable, modulable, qui peut révéler son contenu. Je dis bien non pas seulement transporter et proposer un contenu, mais révéler un contenu. L'objet, livre, peut aider à mieux comprendre, à mieux saisir, à mieux sentir. Voilà, tout ça, c'est ce que cet éditeur appelle l'édition Smart Design. Il faut dire aussi que tous les ouvrages sont désormais reliés de façon traditionnelle, cousus ou collés à la main, une étape qui n'est habituellement pas considéré comme faisant partie de la partie noble du travail d'édition. C'est du travail de petite main, hein, c'est comme la couture. Un travail mal considéré que presque plus personne ne veut faire, alors que sans la reliure, il n'y a que des feuilles volantes. Une démarche sociale aussi, parce qu'il y a un accompagnement dans la relation avec l'auteur, une relation de travail assez étroite du début à la fin, tout le long de la conception et de la diffusion du livre, avec une écoute particulièrement attentive de l'intention, des souhaits de l'auteur et de son émergence intellectuelle, sociale et même économique, puisque la valorisation sociale de l'auteur passe souvent aussi par l'économie, hein, parce que ce n'est pas le terrain sur lequel le statut d'auteur est le plus confortable. Alors avec La Voix sociale et édition, la majorité des recettes va à l'auteur ou aux auteurs. Joanne, tu es en stage en fait en tant qu'assistant d'édition. Peux-tu nous dire sur quel projet de livre en particulier tu es intervenu ?
Je suis intervenu sur Femmes, auquel j'ai fait beaucoup de corrections. C'est-à-dire j'ai pris un prototype et puis j'ai pris page par page et j'ai noté tout ce qui, selon moi, pouvait être amélioré. Je suis allée imprimer les limeurs de vie, où j'ai dû vérifier chaque page. J'ai relu le baquet après aussi pour toutes les corrections typographiques, toutes les erreurs de saut de ligne, point manquant, police, marge, couleur.
Voilà, les impressions sont sorties, tu les récupères, tu les as sous les yeux. Qu'est-ce qui se passe et à quoi il est important d'être attentif ?
Bah déjà, j'ai bien vérifié s'il y avait tous les cahiers, puisque un livre, c'est composé de cahiers qu'on va relier. Donc j'ai vérifié s'il y avait tous les cahiers, ils n'y étaient pas tous. En voyant qu'il n'y avait pas tous les cahiers, ou du moins pas tout le bon nombre de cahiers que nous avions préparés, j'ai regardé plus en détail les pages, et effectivement, ce n'était pas les bons numéros de pages. Les pages n'étaient pas au bon endroit, il y avait des pages blanches qui s'étaient insérées. Donc à ce moment-là, il faut revoir le travail avec l'imprimeur pour comprendre ce qui s'est passé à l'impression. On vérifie aussi un peu si c'est les bonnes couleurs, enfin s'il n'y a pas du moins d'écart trop grand sur un prototype. Ça nous permet de comparer avec ce qu'on voulait. On vérifie s'il n'y a pas des choses qui nous sautent aux yeux, très simplement en fait.
Arthur, assistant d'édition, étudiant en master métier du livre et édition à Rennes 2, stagiaire auprès de l'éditeur dont nous parlons aujourd'hui. Peux-tu nous présenter en quoi consiste ton rôle ?
Mon rôle en tant qu'assistant d'édition, c'est de suivre les projets pour permettre au livre d'aboutir. Ce qui me plaît dans le côté assistant éditorial, c'est qu'on peut voir vraiment tous les aspects du livre, donc de la création purement intellectuelle, disons, jusqu'à l'objet livre. Et l'autre partie, ce qui était le plus éprouvant, c'était le print, la partie impression, effectivement, parce que c'est vrai que quand on va chez imprimeur, on ne sort jamais avec le prototype qu'on attendait.
Qu'est-ce qui va motiver une intervention sur le texte de l'auteur ? Parce qu'évidemment, on imagine que ça, c'est un point assez sensible.
Oui, tout à fait. Alors, par exemple, ça peut être par rapport au public qui est ciblé. Moi, je pense, par exemple, pour le bac et après, on avait un public plutôt adolescent. Donc, on a pensé le livre comme ça. Évidemment, après, ça nous amène à regarder le texte et à réfléchir qu'est-ce qui serait le plus adéquat. Par exemple, sur le bac et après, on a une... Ils ont une variation dans le ton assez brutale à un moment. Ça tombait un peu bizarrement. On s'est dit, bon, là, il faudrait quand même, sinon, modifier, du moins assouplir un petit peu le passage. Et quand on l'a dit à l'auteur, on l'a dit, voilà, ce qu'on en pensait très honnêtement. C'est-à-dire qu'on en parle toujours à l'auteur, parce qu'il y a quand même le respect du texte. Et à ce moment-là, tout de suite, il a dit, ouais, il a, il a carrément modifié, carrément supprimé un passage.
Est-ce que tu as eu l'occasion, là, déjà, d'aller jusqu'au façonnage, jusqu'à la finalisation plastique d'un livre ?
Moi, j'ai eu l'occasion d'expérimenter la reliure. Et j'ai pu, bon, expérimenter le pliage et la reliure sur des carnets, par exemple. Et donc là, encore une fois, tout nouveau. Donc là, j'ai découvert vraiment, disons, le savoir-faire, qui est quelque chose qui est rare, à mon avis, que je me suis piqué les doigts une fois ou deux avec l'aiguille. Et donc, j'ai pu voir les facettes du façonnage. Et j'ai pu constater aussi l'étendue de tous les savoirs, disons, qu'il faut mettre en œuvre pour construire un livre. Oui. Et on ne fait pas attention à tous ces petits détails qui font que le livre est attirant comme ça, ou bien conçu, ou qui fait que la lecture va être confortable. Si ça m'était déjà arrivé une fois ou deux de me dire, voilà, on a le texte qui prend trop de place ou quoi, mais disons que j'avais pas cette sensibilité, ce tact que j'ai pu apprendre à la voix sociale l'édition.
Patricia Roulet, bonjour.
Bonsoir Thibault.
La nuit tombe. Tu es l'auteur du livre Une longueur d'onde d'avance, qui est paru aux éditions La Voix sociale l'an dernier. Ça fait un an. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement, dans les grandes lignes ?
Alors, ce livre est un album jeunesse destiné aux enfants de 8-10 ans. Il traite d'une thématique un peu nouvelle pour le monde des enfants, la thématique des pollutions électromagnétiques. Donc, le personnage principal, qui est un informaticien Félicien, est malade. Il est électro-hypersensible et il va rencontrer ses amis. Et autour de ces rencontres, il va s'apercevoir que ses amis ont une longueur d'avance de connaissance sur les pollutions électromagnétiques.
C'est-à-dire que lui, l'informaticien, finalement, qui vit au milieu de tout ce matériel, de toutes ces ondes, etc., qui en fait le rendent malade, il comprend que les personnes qui l'entourent ont toutes une info, une connaissance, un point de vue à lui apporter pour trouver une intelligence commune qui va lui permettre de trouver les solutions à ce problème qui le fait souffrir.
Effectivement, c'est tout ce lien social qui va l'aider à avancer dans sa maladie et il va trouver des pistes d'amélioration pour retrouver un goût à la vie finalement.
Alors je crois que tu as aussi le projet d'intervenir dans des structures pour développer encore la diffusion du livre et aller à la rencontre de son public.
C'est ça. En fait, ce qui est bien avec La Voix sociale édition, les services qu'ils peuvent proposer, c'est qu'on a un réel accompagnement, nous, en tant qu'auteurs. Et c'est vrai que c'est un livre avec une thématique un peu particulière qui demande à rencontrer son public. Et donc, on est en réflexion, hein, mais ça avance plutôt bien. C'est de se dire, c'est comment faire découvrir ce livre par un autre biais, peut-être par le secteur scolaire ou les centres de loisirs. Peut-être qu'on va demander des aides pour se faire accompagner, pour présenter cette thématique des pollutions électromagnétiques et auprès de scolaires ou d'enfants dans les centres de loisirs.
Alors, Une longueur d'onde d'avance, c'est un livre illustré, mais quand tu as rencontré La Voix sociale et édition avec ce texte, tu n'avais pas d'illustration à ce moment-là, ni d'illustrateur d'ailleurs.
C'est ça, Thibaut. Mais j'avais l'idée donc de m'adresser à un public jeune sur cette nouvelle thématique. Et donc, on a cherché un illustrateur, une illustratrice, et on avait organisé ensemble un concours. Et c'est Lily qui a été la lauréate et qui a illustré ce livre, qui est tout en couleurs, des couleurs très gaies, qui font le contre-pied à cette thématique assez noire finalement, assez grisâtre.
Ce livre pour les adultes peut aussi permettre de découvrir les enjeux et une première base d'orientation de solutions techniques. Par exemple, on peut avoir des petites bulles qui vont nous présenter les matières qui vont être les plus conductrices ou les plus isolantes par rapport aux ondes électromagnétiques.
En fait, il faut se dire que il faut savoir se protéger des ondes parce que les ondes électromagnétiques, elles n'ont pas d'odeur, elles n'ont pas de chaleur, elles ne se voient pas, mais il y a des solutions et il y a des petites pratiques à avoir et ces petites bulles en donnent pas mal.
Peux-tu nous dire quelques mots sur ce que tu sais de l'électrosensibilité en France, par exemple ?
Alors, l'électrosensibilité touche, il me semble, une personne sur 20. Donc, c'est pas mal. En fait, les gens électro-hypersensibles ont des problèmes cutanés, ils ont des problèmes de mémoire, ils ont des problèmes qui, finalement, les empêchent de vivre dans ce monde actuel qui est quand même hyper connecté. Donc, les gens peuvent être gênés par du Wi-Fi, peuvent être gênés par des antennes relais, mais ils peuvent être aussi gênés par leur réseau électrique. Pour pas tomber dans l'électrosensibilité, eh ben, il y a des petites choses à savoir. Et par exemple, on coupe le Wi-Fi la nuit, puisque la nuit, on se régénère. Et pour pas tomber malade, eh ben, pour pas tomber dans cette maladie handicapante, en fait, c'est comme une allergie. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ne peuvent plus vivre dans cet univers d'objets connectés, hein, qui est quand même très présent actuellement, notamment avec l'arrivée de la 5G, hein, qui pose des questions. Donc si on corrige tout de suite là, des petites choses dans son quotidien, si on revient avec un téléphone filaire, si on coupe le Wi-Fi la nuit, si on débranche ses appareils quand on ne les utilise pas, bah, toutes ces choses-là font qu'on va peut-être éviter de tomber dans l'électro-hypersensibilité et pouvoir continuer à vivre, à travailler, à ce que les gens électro-hypersensibles ne peuvent plus faire.
Oui, aujourd'hui, d'ailleurs, on peut faire un diagnostic électromagnétique de son habitat ou de son lieu de travail.
On peut faire appel à ce qu'on appelle des diagnostiqueurs qui font un audit chez vous, qui se déplacent avec des appareils de mesure parce qu'il faut des appareils de mesure pour voir où sont les pollutions électromagnétiques et corriger, parce qu'il faut s'apercevoir que c'est bien dans son domicile qu'il y a le plus de pollutions électromagnétiques. Les pollutions électromagnétiques, c'est pas forcément les autres.
La Voix Sociale Édition, c'est une structure qui a choisi d'ouvrager le livre au niveau déjà de la source des savoir-faire, de retrouver des savoir-faire, de réactiver la connaissance et la rencontre avec les matériaux qu'il y a à travers le fait de faire à la main. Par exemple, là, dans le cas d'une longueur d'onde d'avance, on a un livre avec une reliure cousue main. Tu as pu participer d'ailleurs à des sessions. Les différents auteurs de cet éditeur sont invités à venir participer aux sessions de fabrication, de façonnage du livre.
Ben oui, ce qui était important, je trouvais, avec ce livre, puisque la thématique est assez, on va dire, un peu grave, c'était d'en faire un bel objet. Donc, belle reliure, cousue main. Donc effectivement, j'y ai participé. Donc c'est intéressant parce qu'on voit... Donc j'ai été accompagnée par la Voix Sociale Édition dans la rédaction du texte, dans la recherche de l'illustratrice, des deux illustratrices, on va dire. Et puis également dans la conception. Donc j'ai participé à coudre les livres, à couper, à façonner. Et c'est intéressant de voir toutes ces phases du livre. Et je trouve que la Voix Sociale Édition met en valeur dans ce sens, je trouve, encore plus le livre en tant qu'objet, en tant qu'objet qu'on passe aux uns, aux autres, un vrai lien.
Évidemment, ça a du sens en particulier avec ce livre, puisqu'il y a une utilisation moindre des techniques numériques pour la réalisation. En fait, en dehors de l'impression, les techniques employées sont des techniques manuelles. Je pense que la prochaine étape, ce sera un gain de précision encore dans le choix des papiers. La plupart des papiers qui sont utilisés aujourd'hui pour l'impression laser, par exemple, sont quand même des papiers très standardisés avec un effet de lisse, un papier un peu brillant qui est très apprécié pour les revues, pour les documents professionnels, etc. Mais finalement, en termes de richesse et de chaleur de la sensation, il me semble qu'il y a un sacré champ à développer encore.
Oui, alors peut-être que ça pourrait aller avec ce livre qui traite finalement avec cette maladie qui est l'électrosensibilité, où tous les sens sont exacerbés. Bah, peut-être que oui, finalement, le livre avec un objet, avec un papier particulier, a tout son sens. Et aussi, moi je pense que, donc là on va fêter les 1 an du livre, peut-être qu'aussi on pourrait penser à une version comme on ferait une version poche, là plus pour diffuser le message.
C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver tous les livres dont nous avons parlé et d'autres encore, rendez-vous sur la boutique en ligne de La Voix Sociale Édition, lavoixsociale.org/boutique. Vous y trouverez plus d'informations sur les livres et évidemment la possibilité de les commander. Soit les ouvrages sont en stock, soit ils sont fabriqués sur commande. Puisque, vous l'avez compris, La Voix Sociale Édition ne fait pas dans les tirages de masse. Le catalogue éditorial est également disponible sur la page La Voix Édition du site lavoixsociale.org. Le podcast de cette émission sera disponible prochainement. Merci à tous, merci à tous les auteurs et merci à l'équipe de La Voix Sociale Édition d'avoir répondu présent. Arrivederci et à bientôt sur la fréquence de la beauté.